Europe 1.
Pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
14h, 15h, la voie est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Jamais on écrit pour être connu, c'est autre chose. C'est pour parler, certainement, c'est pour raconter quelque chose à quelqu'un.
Nicolas Caro.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre. Aujourd'hui, je reçois un écrivain qui est aussi un personnage, finaliste du Goncourt. Mackenzie Orcel passe nous voir. Ensuite, visite de bibliothèque, bien sûr, celle d'Elie Semoun, gros lecteur de poésie notamment. Et puis à la fin de l'émission, je réunis tout le monde, libraire compris. On parlera littérature et bande dessinée comme d'habitude. Mais d'abord donc, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre. Si vous ne connaissez pas encore Mackenzie Orcel, il est temps, auteur de L'ombre animale, Maître minuit et maintenant Une somme humaine chez Rivage. C'est une sorte de poète haïtien cerné par les fantômes, les divinités, mais aussi le monde contemporain et Haïti, souvent, mais pas cette fois. Une somme humaine, suite, si on veut, de L'ombre animale, c'est le récit de la narratrice qui nous parle depuis l'au-delà. Elle s'est jetée sous un métro, elle reprend l'histoire tragique de sa vie, elle nous raconte ce roman. Faisait cette année partie des quatre finalistes du prix Goncourt. Bonjour Mackenzie Orcel.
Bonjour.
Comment ça s'est passé toute cette période Goncourt là? Tout le cirque.
Alors mais c'était très troublant parce que 3-4 semaines après la sortie de mon livre, j'étais là encore à me demander est-ce que j'ai pas oublié quelque chose? Est-ce que j'ai écrit le livre que je voulais écrire? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai réussi à saisir toutes les dimensions de cette femme, de cette narratrice? Et bam! Sélection du prix Goncourt. Donc, et après, tout ça, ça s'est passé très, très, très vite. C'était très troublant parce que...
Mais quoi,
après...
bam, c'est une confirmation que vous avez bien fait ou...
Enfin, quand on écrit un livre, c'est jamais fini, quoi. Un mois après, on se pose encore des questions. On émerge doucement de ces mois, de ces années de boulot. Et là, la première sélection du Goncourt... Et je pouvais plus, j'arrivais plus à réfléchir au livre, j'arrivais plus à penser à ma démarche d'écrivain. J'étais dans autre chose et c'était assez troublant. Et vous savez, après 3 ans de travail jour et nuit, et bam, une sélection du Goncourt et c'est...
Ça change quoi?
Ça change tout.
Ça ouvre des portes?
Ben, ça change tout. Mon téléphone est devenu un truc insupportable.
Ah ouais?
On reçoit plein d'appels, il y a plein de gens qui s'intéressent à vous... Et tout change, tout le monde est content. Et puis, on a l'impression d'être dans un virage qu'il ne faut pas rater. Et ça crée une tension quotidienne.
Il y a aussi la fierté de ceux qui vous recevaient avant la sélection Goncourt. Moi, je vous avais reçu pour le précédent, L'Empereur. Et à ce moment-là, je vous avais demandé sur quoi vous travaillez pour la suite. Vous m'avez dit, ben, je quitte Haïti pour le prochain. Ce sera une histoire d'amour en Auvergne. Mais pas du tout, en fait.
Ah, j'ai dit ça.
Ouais.
Non. J'ai quitté Haïti, enfin, non, parce que je pense que j'écris depuis cette enfance, depuis mes vécus haïtiens, depuis mon histoire, depuis ma mémoire. Je suis un modeste héritier de la grande tradition poétique haïtienne. J'ai traversé pas mal de littérature et là, j'avais besoin de me balader un peu. En fait, le projet, c'est ça. C'est une grande balade d'Haïti jusqu'aux États-Unis en passant par la France. Je trace un triangle. Et je pense que ça me permet quelque part de sortir de ce que je connais, de ce que je connais de Haïti, de l'histoire d'Haïti et d'aller vers autre chose. Et cet inconnu-là est assez excitant dans le sens où ça, en termes de point de vue, et ça change tout. Et le roman, d'abord, c'est un point de vue.
On va rentrer dans le détail, mais c'est une narratrice qui parle, comme dans L'ombre animale d'ailleurs. C'est Haïti, là c'est France, ce sera États-Unis ensuite. Comment on se met dans la peau d'une femme quand on est vous, Mackenzie Orcel?
On se met dans sa peau. On est elle. Moi, j'ai été cette femme pendant 3 ans. Et j'ai l'impression d'avoir toujours vécu avec elle. Elle est là, elle existe. Elle a encore une voix, une âme, une histoire, une mémoire. Et le plus difficile, en écrivant ce livre, il fallait que je laisse toute la place. Il fallait que... Je sois là, mais juste à côté. Et je la regardais faire, je la regardais vivre, dire les choses, s'énerver et se balader dans Paris et faire sa vie. Et moi, je retranscrivais juste tout ça et toute son expérience. À partir du moment où la rencontre est là, avec le personnage, On sait comment il parle, on sait ce qui le motive, où il veut aller, on sait ce qui l'anime, et c'est possible. La projection devient possible à partir de là.
On va en parler, mais je voudrais quand même qu'on écoute votre style, que vous nous lisiez un passage, justement, ça concerne la question du pays. Qu'est-ce qu'un pays ? Alors, ce n'est pas toujours le cas pour tous les livres. D'ailleurs, c'est rare que je fasse faire des lectures aux auteurs que je reçois. Mais vous, c'est tellement particulier comme scansion, comme rythme, que j'ai envie qu'on entende. Et ensuite, on en parle. Je vous écoute.
C'est quoi un pays ? Continua Orcel comme en aparté. C'est son corps à soi, son sang, son enfance, ses souvenirs, ses rues, l'odeur du café dans le petit matin clair, l'odeur de la terre battue. C'est son bétail, ses animaux domestiques, le travail des champs, les oiseaux, leurs chants qu'on entend dès l'aube. Ce sont les jeunes gens qui sèment et nourrissent des projets. La rivière où on va battre son linge. Ce sont les camions sur les routes transportant des marchandises d'une ville à l'autre. Un pays, son pays, c'est son père et sa mère qui se prennent par la main. C'est la seule musique qu'on connaît, qui nous chuchote encore dans la tête, persiste malgré les distances et le mauvais temps. Et quand toutes les autres musiques s'éloignent, nous échappent, c'est un grand nous, un pays, qu'il faut prendre le temps de rêver, nommer. Un enfant qui nous tend ses bras dans un besoin absolu de tendresse, de grandir. Pour construire un pays, l'habiter, il faut se brûler à sa flamme, se remplir de ses souffles les plus mystérieux. Mais surtout, il faut l'aimer ensemble, beaucoup l'aimer.
Alors là, on ne l'entend pas. Merci beaucoup, Mackenzie Orsen, mais il n'y a pas de point dans ce roman, il n'y a que des virgules. Et alors, c'est presque une banalité de le dire maintenant avec vous, mais c'est une sorte de rivière quand vous écrivez. Oui. Ça coule comme ça. Et c'est une écriture qui jaillit en permanence, une sorte de lave en fusion avec des ébullitions, des éruptions, mais sur 600 pages. Donc, vous écrivez en apnée. Comment ça se passe ?
Mais
ça ne s'arrête jamais.
C'est un récit qui épouse la forme de la vie, la forme de la mort, du vent. C'est quelque chose qui passe comme ça, comme le temps. Je ne sais pas si on peut arrêter le temps, si on peut faire barrage au temps. Ce n'est pas possible. Et ma narratrice parle depuis le lieu de la mort. Et depuis ce lieu, on a l'impression qu'elle nous dit que tout est possible, que tout est compréhensible, que tout devient clair. Sa première phrase, c'est tout s'éclaircit à partir de la mort. Et au-delà de ça, et moi, j'ai voulu dire au lecteur de ce livre, et cette parole, la parole de cette femme, c'est comme une sorte de vertige. Et à partir du moment où on va ouvrir le livre, il faut absolument qu'on ressente ce vertige. Si on ne le ressent pas, ce n'est pas possible.
C'est même plus qu'un vertige, c'est une sorte de transe. Est-ce que vous, quand vous écrivez, justement, vous êtes dans une espèce d'état second comme ça?
Ouais, peut-être. C'est très bizarre comme expérience quand on écrit. On a l'impression d'accéder à un lieu qui est à la fois le réel, et l'ailleurs, l'absolu, une sorte de vérité qui n'est pas tout à fait une vérité, un vrai faux, un ici, ailleurs. C'est très bizarre parce que moi, je mets beaucoup de temps à émerger et quand je me relis, je me dis « Ah, j'ai écrit tout ça. » Et c'est très étrange comme lieu. Je ne sais pas si on peut mettre des mots sur ce que c'est, sur cet état quand on écrit.
Et tout ça est très cohérent puisque beaucoup de personnages n'ont pas vraiment nom des lieux qui ne sont pas vraiment des lieux définis. On replonge dans la rivière dans un instant.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre. Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue toujours avec le grand Mackenzie Orsel pour une somme humaine chez Rivage. C'est une narratrice qui parle depuis l'au-delà. Elle vient de se jeter sous une rame de métro, en fait. Et elle nous raconte sa vie. Elle retrace le fil en commençant par le début. Elle est dans un village français. On ne sait pas exactement où. À côté d'une ville qui s'appelle la ville juste à côté.
La ville la plus proche.
La ville la plus proche, voilà. Elle est confrontée à tout un tas de personnages, mais c'est ce que je disais juste avant la pause. Vous ne définissez jamais exactement les personnages, c'est-à-dire il y a le drôle de curé, il y a l'oncle libidineux, il y a la narratrice qui n'a pas vraiment de nom, les villes qui n'ont pas de nom, à part Paris peut-être, parce qu'on reconnaît. Pourquoi vous décidez ça, de ne pas ancrer ?
C'est très ancré, si on veut, sans les noms, parce que le nom ça limite vachement. Quand on dit Jacques, c'est Jacques. Donc Jacques, c'est pas Pierre, c'est pas Laurent. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la voix du personnage, c'est sa présence. Et qu'est-ce qu'il apporte et au récit au récit initial, au récit originel, et comment il va participer à faire avancer ce récit. Il y a ça, il y a aussi le fait que ma narratrice est une femme qui a grandi dans une grande solitude et qui appelle ses parents mes géniteurs parce qu'il n'y a pas eu d'histoire d'amour. Une mère assez distante, un père très lâche, un oncle assez monstrueux. Et donc, elle le dit, elle ne voulait pas nommer ces gens dans son récit. Père, mère, oncle, et ça suffit.
Oui, elle arrive dans la vie comme on arrive à un dîner sans être invité.
Voilà,
en fait.
Voilà.
Bon, puisque tu es là, reste assis, on va te donner quelque
et elle
chose.
Invente aussi, et elle invente aussi des figures, par exemple, TOI. C'est à la fois une invitation au lecteur pour lui dire, bon, voilà, vous faites partie aussi de son récit. Mais je pense que quelque part, elle invente aussi parce que c'est quelqu'un, comme je l'ai dit, qui a grandi seul. Et donc, elle avait besoin quelque part d'avoir une meilleure amie, comme tout le monde. D'avoir une amie à qui parler, à qui se raconter. Et puis, le livre, c'est aussi un dialogue entre le visible, l'invisible, entre le nommé, l'innommable, entre le village invisible, paumé, isolé, très loin, et puis Paris, et ce qu'on nomme, ce qu'on connaît, le bouillonnement, la modernité, les bars, les cafés, les avenues, et tout ça porte un nom. Mais là d'où elle vient, ça n'a pas de nom, qu'elle vient de très 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 loin.
Elle va partir pour Paris, mais ça commence dans un village français, on ne sait pas exactement où, donc, mais c'est surtout que ça commence... une sorte de noirceur, quoi. Il y a pas d'amour, il y a des déconvenues, mais il y a quand même cette optique de partir pour Paris un jour. Mais c'est comme s'il fallait absolument que vous commenciez par un berceau sombre, quoi. Pour pouvoir s'en échapper. Bon,
mais tout le monde pense à partir à un moment donné jusqu'à ce qu'on décide de rester pour une raison ou pour une autre. Donc, dans la tête de cette fille, c'était évident. Donc, elle ne pouvait pas continuer à accepter cette vie, à se laisser écraser et par cette vie. C'est un village qui pourrait être n'importe quel village de France. La pharmacie, le bar à vin, le boucher, la brasserie, la pharmacie, et tout ça. Et Paris, quand on regarde bien Paris, ça ressemble à... C'est que des villages assemblés. Hein. Dans chaque arrondissement, il y a quasiment la même chose. La pharmacie, le bar à vin, le boucher...
Non mais d'accord, mais au départ pour le village, c'est un village normal, mais elle aurait pu être dans une famille normale, avec de l'amour. Vous avez décidé en tant que romancier de la placer dans une famille où c'est pas très chouette, quoi.
Ouais, à un moment donné, il fallait faire intervenir le drame. Sans drame, il n'y a pas de roman.
Mais là, ça commence par le drame. Coup, et c'est souvent comme ça chez vous.
Mais elle dit...
Comme si vous aviez besoin de cette impulsion.
Elle dit, ma vie a été une lente autodestruction. Donc à partir du moment où elle dit ça, et moi je me pose la question, qu'est-ce qui s'est passé?
Non, mais ce que je veux dire,
donc
c'est que je me rappelle de Maître Minuit, par exemple, où ça commençait dans un dépotoir, où on errait comme ça dans une sorte d'enfer sur Terre. Et ensuite, le roman démarre et part ailleurs, y compris pour un autre enfer. Mais vous avez un côté Dante, quoi. Dante Alighieri et la Divine Comédie, quoi. Vous nous faites visiter l'enfer en permanence.
Je suis obsédé par la mort, par la thématique de la mort. Comment on va à la mort? Et comment on arrive dans la vie. Donc il fallait que je trouve une ligne de la vie à la mort et vice versa.
Alors quand même pour Paris, bon, on sait que ça va mal se terminer puisque elle nous parle depuis l'au-delà. Mais au départ, quand même, il y a de l'espoir, quoi. C'est-à-dire qu'il y a de la vie. Elle fait du slam, il y a du théâtre, il y a de l'art. Et puis il y a des gens qu'elle rencontre, notamment Orcel et Mackenzie. Oui.
Mais c'est une femme qui a tout essayé, comme une étoile, et sa vie, c'était comme un champ gravitationnel qui va chercher des énergies physiques, quantiques, pour histoire de devenir quelqu'un, une étoile pour briller, mais elle n'a pas réussi. Et ce qui reste dans ce livre, c'est un trou noir.
Mais comment ça se fait qu'elle n'y arrive pas? Parce que quand même, il y avait du potentiel, quoi. Il y a un moment où ça pourrait.
Elle n'y arrive pas. Moi, je pense qu'elle n'y arrive pas parce qu'elle ne sait pas quoi faire de cette enfance, quoi. Elle ne sait pas quoi faire de ce qui s'est passé. Il s'est passé quelque chose. Elle avait 12 ans, elle s'est fait violer par son oncle. Donc, 14, 12 ans, 15 ans, elle s'est fait violer par son oncle. Et quand elle a raconté l'histoire à ses parents, Et ils lui ont dit, mais tu racontes n'importe quoi, et tu... c'est pas possible, c'est pas arrivé. Donc tout le monde était dans le déni, et elle, elle s'est retrouvée seule avec cette histoire. Elle est partie seule avec cette histoire. Elle a essayé seule avec cette histoire. À un moment donné, elle a décidé de devenir poète, parce qu'il y a quelque chose dans la poésie, comme une sorte de bulle, comme une sorte de refuge, où on peut tout cracher, on peut tout vomir, et par le moyen de la langue, et ça n'a pas marché. Et voilà, ça n'a pas marché, parce que qu'est-ce qu'on fait d'une telle histoire? Je ne sais pas.
Et alors, il y a des moments que moi j'ai trouvé drôles, mais qui ne sont pas forcément drôles de votre point de vue, mais vous décrivez certains aspects de cette société d'aujourd'hui, et vous dites à un moment que les Français, un Français sur deux, je crois, dit régulièrement « Rhan », R-H-A-A-N, et qui veut dire qu'il va commencer à râler.
Je ne sais pas.
Comment vous le faites? Je ne sais pas comment le prononcez.
Non, il y a un truc comme ça dans la langue qui... Peut-être pas dans la langue, je pense que c'est très français. Les gens, quand ils parlent, ils respirent. T'as l'impression qu'ils respirent à l'envers. Et comme ça. Et je trouve ça assez intéressant parce que à chaque fois que je l'utilise, c'est pour donner la parole à l'opinion publique.
Voilà, c'est ça.
Aux autres. Voilà.
Mais vous êtes un peu français, vous, maintenant, non? Ça fait longtemps que vous vivez là.
Ben, je suis,
est-ce que vous utilisez cette onomatopée, cette respiration?
J'y arrive pas. Hein. J'aimerais bien, mais j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, je m'étouffe. Bien, j'essaye.
Une somme humaine et une somme de travers, on y revient dans un instant.
La voix est libre.
Nicolas Caro.
Une somme humaine, c'est le nouveau roman de Mackenzie Orcel, chez Rivage, finaliste du prix Goncourt, s'il vous plaît, Mackenzie Orcel qui est toujours avec nous. On parlait tout à l'heure de cette propension des Français à commencer certaines phrases par « pour râler ensuite, une sorte de conversation de bistrot comme ça, qui commence souvent comme ça, vous l'écrivez R-H-A-A-N dans, comme une onomatopée. Mais votre manière d'écrire, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une sorte de rivière comme ça, de flux qui se termine jamais sur 600 pages. Mais il y a aussi quelque chose de l'admonestation, comme le type dans la rue, comme ça, qui raconte un truc, mais en prenant à partie ce qu'il rencontre.
Et tous mes personnages prennent la parole. C'est une prise de parole, mes livres. De Les Immortels à Une Somme Humaine. Et c'est quelqu'un qui décide de prendre la parole et qui dit tout. Qui dit tout, qui raconte son histoire personnelle, qui raconte la grande histoire, qui dit tout, en fait. Et dans ce... C'est une démarche qui m'intéresse beaucoup parce que on vit dans une société où on a l'impression que les gens, ils parlent pas beaucoup, ils ont peur de parler, ils ont peur de dire les choses, tout simplement. Et moi, j'aime bien cette idée de quelqu'un qui prend la parole et qui dit tout, qui dit l'autobiographie, c'est comme une pute qui montre ses nichons. Mais ça n'étonne personne. Voilà, ça n'étonne personne, mais je vais quand même continuer à raconter mon histoire. Et cette femme, dont raconte une histoire tragique, une histoire contemporaine, et l'histoire de cette société, l'histoire des gens qui vivent dans cette société, l'histoire des Français, des étrangers, de tout le monde. Et c'est tragique, c'est dramatique, mais ça n'étonne personne.
Vous vous en voulez, Mackenzie Orcel? Parce que, comme dans beaucoup de vos livres, mais dans celui-là, c'est très très clair, il y a deux personnages. Il y en a un qui s'appelle Mackenzie, l'autre Orcel. Alors Mackenzie, c'est plutôt un sale type. Orcel, c'est plutôt, c'est pas forcément l'inverse, mais enfin, ouais. Il a des meilleurs côtés. Et c'est deux faces, évidemment, qu'on pourrait considérer d'être ouais. Un même personnage. Et évidemment, on vous reconnaît, puisque vous vous appelez Mackenzie Orcel. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous avez voulu vous flageller publiquement dans ce livre?
Non, c'est pas moi. Orcel, il est sympa, il est très lumineux. C'est très difficile de ne pas l'aimer, Orcel. C'est un mec bien. Il est tendre, il écoute, il est là, il est serviable, il est amoureux, il est aimant, il est très beau, Orcel. Et contrairement à Mackenzie, qui est un être assez manipulateur, très, très bizarre, on dirait qu'il appartient pas au réel, qu'il appartient pas à sa vie. Il n'arrête pas de disparaître, il disparaît dans ses phrases, il disparaît dans la vie de l'autre, il disparaît. Il est un démon. Ouais, un peu un démon, un fantôme. Parce que le livre est justement ça, ce dialogue, cette rencontre entre des réalités extraites, entre des contraires. Et à un moment donné, j'ai décidé de séparer mon prénom de mon nom de famille pour participer au jeu, quoi. Mais ces personnages n'ont rien à voir avec moi.
C'est pas innocent, quand même.
Non, 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 rien à voir avec moi. Orcel, il est blanc, je suis blanc, non. Et Orcel, il est malien, pardon. Je ne suis pas malien. Orcel, c'est un jeune malien qui est arrivé à Paris avec ses deux frères à Clichy-sous-Bois. J'ai jamais vécu à Clichy-sous-Bois. J'ai pas de frère, je ne suis pas malien. Mackenzie, il est blanc. Bon, que je sache, je ne suis pas blanc. Donc, c'est juste un exercice romanesque, littéraire.
Oui, mais parce que, en fait, ce n'est pas la morale du livre, mais enfin, c'est quelque chose qui revient, c'est qu'on n'échappe pas à son enfance. Est-ce que vous échappez à la vôtre, Mackenzie Orcel?
Moi, je vais vers mon enfance.
Qui a été pas la plus simple.
Non, moi, je vais vers mon enfance. J'écris parce que j'ai eu cette enfance-là. C'est-à-dire une enfance dans une grande solitude, sans jouets, presque sans amour, parce que ma mère, elle était très, très occupée à aller chercher autre chose pour nous sauver la vie. Donc, moi, je pense que j'écris quelque part pour remplir cette enfance-là, pour la reconstruire. Je vais vers elle.
J'ai déjà parlé de votre roman plusieurs fois, mais j'ai un peu du mal à en parler. Et depuis qu'on parle, je pense que certains auditeurs se disent « Mais qu'est-ce que ça raconte ?» Et en fait, bon, si, ça raconte quelque chose, c'est linéaire. Mais c'est avant tout quand même une expérience de lecture, quoi. C'est-à-dire qu'on pourra dire ce qu'on veut. Il y a un moment où il faut ouvrir le livre pour rentrer dedans et entamer cette danse avec vous un peu
ça raconte tout simplement la vie d'une étoile. La vie d'une étoile qui au début était en champ gravitationnel, qui tourne comme ça, qui atteint une sorte de séquence principale et puis qui s'effondre sur elle-même. Elle le dit d'ailleurs dès les premières pages. Qui s'effondre sur elle-même et elle forme un trou noir. Et à partir de ce trou noir, elle parle en remontant le fleuve de sa vie vers une forme de renaissance. La dernière phrase du livre, c'est « À partir de la mort, tout recommence ».
Oui, mais ce que je voulais dire, c'est qu'on le lit comme une expérience un peu étrange, comme ça, une sorte de trip où on se laisse emporter par ce tourbillon-là. Comment vous l'écrivez? Comment vous le concevez? Est-ce que vous partez d'un roman avec un plan, vous disant bah, « je commence dans le village, ensuite elle partira à Paris, elle va rencontrer Orcel qui est sympa,
ah oui,
Mackenzie pas sympa » ou est-ce que vous aussi, vous êtes dans une sorte de... Vous vous laissez emporter par votre propre écriture?
Ah oui, ça c'était très clair dans ma tête, parce que l'ombre animale, c'était déjà la base de ce projet. Parce que c'est la même démarche de l'ombre animale que j'ai reprise pour écrire une somme humaine, c'est-à-dire une histoire qui démarre dans un village et qui va se terminer dans une grande ville.
Est-ce que vous avez une discipline d'écriture? Est-ce que tous les jours vous écrivez de telle heure à telle heure? Est-ce que c'est un peu n'importe quand? Est-ce que ça peut se faire? Est-ce que c'est obligatoirement dans le silence? Est-ce que ça peut être au bistrot? Quelles sont vos habitudes d'écriture?
Mes habitudes d'écriture. Pour moi, je pense que c'est pas l'inscription sur le papier exige une sorte d'organisation intérieure. Je pense beaucoup à mon projet, au personnage, à la langue dans laquelle cette histoire va être racontée. Et je prends beaucoup de notes dans un premier temps, mais vraiment beaucoup de notes, et je cherche la voix de mon personnage. Si j'ai pas la voix, c'est pas possible. J'ai besoin de savoir comment il parle, comment il résonne, ce qui lui est arrivé et où il veut aller et pourquoi il est là. Moi, je travaille. En fait, tous mes livres sont construits sur ces trois questions. Tous mes livres, de Les Immortels à Une Somme Humaine, qui sont des questions kantiennes, hein. Qui suis-je? Que faire de ma présence au monde? Quel avenir m'attend?
Et vous écrivez à l'ordinateur, au stylo?
Dans un premier temps, beaucoup dans mes cahiers. Je prends beaucoup de notes. Et à partir du moment où c'est plus ou moins clair dans ma tête, je passe à l'ordi. Et là, ça va très loin.
En silence, en musique?
En silence, en musique, parfois en bougeant beaucoup dans la pièce.
Ah bon?
J'écris une phrase, je bouge dans la pièce, je marche. Ce rythme-là me pousse à aller plus vite. Parce que quand on lit mes livres, finalement, on a l'impression de marcher, quoi, de marcher, de courir. Et ça me permet, le fait de marcher dans la pièce ou dans la rue en écrivant, ça me permet de garder le tempo, de ne pas perdre le rythme des phrases.
Et ça donne Une Somme Humaine chez Rivage. Merci beaucoup, Mackenzie Orcel.
Merci beaucoup.
Dans un instant, visite de bibliothèque, celle d'Elie Semoun. À tout de suite.
La voix est libre.
Nicolas Carreau.
La Voix est libre continue, il est l'heure de visiter une bibliothèque. Elie Semoun, le comédien, on le sait, est aussi poète. Il avait publié déjà un album de chansons d'amour. Le revoilà avec un roman, cette fois, qui s'appelle « Compter jusqu'à toi » chez Robert Laffont. Une histoire d'amour, évidemment, un roman qui mêle poésie, romantisme et les jardins. Comme sa bibliothèque, finalement, vous allez voir. Bonjour Elie Semoun.
Bonjour, ça va ?
Bah bien, et vous ?
Qu'est-ce que vous faites chez moi ?
Je sais pas, vous m'avez invité.
Dans ma bibliothèque, en fait. Qu'est-ce que je vois ? Je vois un technicien avec un micro, puis je vous vois vous, tranquille, comme si vous étiez chez vous.
Bah, c'est vrai que j'ai
vous
cette habitude.
Vous êtes en train de fouiner,
ouais.
Là, vous
dans
regardez les photos, les affiches avec Dieudonné.
Ouais, alors on est dans votre bibliothèque, on peut l'appeler comme ça.
Ouais.
Une pièce, on est chez vous en grande banlieue,
ouais.
Une petite maison. Et là, on est dans une pièce avec plein de livres sur tout un mur, on va en parler tout de suite, mais effectivement, il y a les affiches encadrées de tous vos spectacles, pas tous peut-être.
Non, il y en a encore plein là à côté. Non, mais ouais, ça fait un peu mégalo. Où est-ce qu'on est ?
Non, mais de cette pièce, c'est...
Ah, bah, j'en sais rien.
Parce
c'est une sorte de...
Il y a un lit.
Ouais, c'est un vieux lit, en fait, que j'ai récupéré de chez mon père. Je l'avais acheté avec lui dans une brocante, puis il sert strictement à rien. Parfois, je me mets dedans pour bouquiner. Il y a deux espèces d'armoires, un peu de bureaux que j'ai trouvé au puce. Et puis là, en fait, j'ai fait une bibliothèque avec des planches de chantier. Et puis avec des... Ça, c'est des tuteurs, en fait, d'arbres.
C'est vous qui l'avez fait ?
Ouais, avec un copain, ouais. Bon, je suis pas très, très fort. Heureusement qu'il était là. Hein. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de réunir tous mes bouquins.
Et puis là,
ça fait joli.
C'est très beau et très cohérent parce que vous avez mis tous vos poches là.
Ouais, j'ai mis tous les poches. J'en ai encore plein d'autres.
Il y a même des anciens livres de poches avec les illustrations d'époque et tout.
Ouais, exact.
Il pourrait y avoir
le Grand Maulne.
Ah.
Et malheureusement, je ne l'ai pas, mais c'est mon premier choc littéraire. C'était quand j'étais ado, c'était le Grand Maulne.
Alain Fournier.
Ah bah oui, Alain
Fournier. L'histoire d'un... C'est un gamin qui raconte qu'il est le fils du directeur de l'école. Ils habitent dans l'école.
Et il est
au début du 20e. Et il y a un gamin qui arrive, qui s'appelle Augustin, qu'on appelle le Grand Maulne parce qu'il est plus grand que les autres.
Exactement.
Et ce Grand Maulne, un jour, fait une fugue. Il se retrouve dans un mariage. Il ne sait pas trop où il est. Et puis, quand il revient, en fait, il est tombé amoureux entre-temps d'une fille là-bas. Et quand il revient, sa seule obsession, c'est de retrouver cet endroit, mais qui a l'air d'être un endroit un peu magique qui n'existe pas. Ça vous a donné envie de fuguer ? C'est quoi le...
Non, pas du tout de fuguer, mais ça m'a parlé d'amour d'une manière tellement romantique. Que, en fait, je bénis ce. J'aime beaucoup ce bouquin et je le maudis en même temps. Parce qu'en fait, il m'a donné une vision de l'amour extrêmement mélancolique, extrêmement romantique. Les personnages sont évanescents. Le Grand Maulne disparaît pendant quelques années. Elle, c'est pas une femme, c'est une princesse.
On ne sait même pas si elle existe vraiment.
On ne sait même pas si elle existe, exact. En fait, on est dans une forme de réalité, dans un conte de fées. Et ça m'a perturbé totalement. Donc, il aurait pu être là.
Je ne sais pas si je me trompe. Il faudrait que je demande à des spécialistes comme ça. Mais j'ai l'impression que L'Attrape-cœur de Salinger, qui est un roman américain des années 50, donc bien plus tard, c'est une sorte de modernisation du Grand Maulne. C'est l'histoire d'un gamin aussi de 14 ans qui fait une sorte de virée fugue dans New York.
Ouais, exact.
Et vous l'avez en version livre de poche à l'ancienne aussi.
Ouais, tout à fait. Oui, ben merci de préciser à l'ancienne. Hein.
Ben non, mais c'est joli. En fait, la question,
moi,
c'était, comme il y a des livres anciens aussi, est-ce que vous chinez les bouquins ?
Vous êtes
bibliophile ?
Oui. Alors j'aime beaucoup toute la collection. Il y a une partie où il y a plein de Gallimard, des vieux bouquins que j'aime beaucoup. Et il doit y avoir... Alors pour revenir sur la littérature américaine... Il y a un auteur que j'aime beaucoup, que je conseille aux auditeurs d'Europe 1, Carou, de Steve Stesich, je ne sais jamais prononcer son nom.
C'est Monsieur Toussaint Louverture.
Fantastique, et il a fait un deuxième livre qui s'appelle David Price. Voilà, je l'ai, on l'a. Que j'ai adoré, vraiment adoré.
Il est dédicacé ?
Ah, il est dédicacé.
C'est l'auteur
oui,
c'est
mon...
ou c'est quelqu'un qui vous l'a offert ?
Non, c'est mon ex.
Je n'ai pas regardé.
Elle avait une très belle écriture.
C'est l'histoire d'un scénariste.
C'est l'histoire d'un scénariste qui boit et qui n'arrive pas à trouver l'ivresse. Et donc, il devient fou. Il boit comme un trou et il ne trouve pas l'ivresse. Et à la fin du bouquin, il part dans un délire, mais complètement fou. Et l'auteur a écrit un autre bouquin qui s'appelle David Price, je crois.
Price, je crois.
Ah, pardon. Price, et qui est une histoire d'amour comme je les aime.
Mais chez Monsieur Toussaint Louverture, qui est un éditeur exceptionnel, qui fait des livres objets très très beaux,
ouais,
aussi, avec des couvertures en surimpression
très, très
comme ça.
Mais donc, j'aime bien la littérature américaine.
Je vais aller un peu vite parce que je voulais qu'on commence par le début. Dans une autre petite pièce juste à côté, j'ai vu, vous ne m'avez pas fait rentrer tout de suite là-bas, mais je l'ai vu en passant.
Si vous avez rien à foutre dans la chambre d'amis, vous avez...
de Bibliothèque Rose.
Ça, c'est génial. Alors, on a donc Polly et son ami, Pipo. On a le chien-chien chez les lutins. On a Alice et l'ombre chinoise. On a Fantomette. Alors, Fantomette, ça, c'est ce que lisait mon frère, Laurent. Les cinq contre le masque noir.
Le club des cinq.
Voilà, le club des cinq, pardon. J'ai cru qu'il y avait du Fantomette.
Boum, le petit tambour.
Voilà, boum, le petit tambour. Ça, c'est les premiers bouquins que j'ai lus. Fantomette et le masque d'argent, hein, très important. Oui, et la gomme magique.
Et vous avez réessayé
J'en ai encore
ou pas
plein d'autres.
Vous avez réessayé plus tard ou ils sont là juste pour la nostalgie?
Ouais, ils sont là pour la nostalgie.
Sauf mon respect, il n'y a aucun rangement dans votre bibliothèque.
Hein. Je vous emmerde. Hein. Mais vous voudriez que
beau,
je les range comment?
À côté de la bibliothèque rose, il y a les éditions de minuit avec Hervé Guibert, les Littrés, enfin des trucs assez sophistiqués. Comment vous les retrouvez? Est-ce que vous savez où chaque livre se trouve?
De l'autre côté, mais vous n'étiez pas censé venir ici. De l'autre côté, c'est un peu plus rangé. Mais il y en a tellement. Enfin, je ne sais pas, chez vous, il y en a beaucoup aussi, non?
Oh oui. Mais comment vous les classez,
trop.
Vous
mais j'aurais bien voulu les classer par ordre alphabétique, mais ça m'a cassé les...
Voilà. Bon, on va retourner de l'autre côté.
Ouais, ouais.
Il y en a que vous classez.
C'est tellement beau, les livres.
Ils sont tous en poche, là, ils sont magnifiques.
Ouais.
Mais il y en a... Ils sont sur la tranche, évidemment. Mais il y en a quelques-uns qui sont de face.
Ah oui,
et
alors...
Notamment, il y en a deux, là.
Ah, voilà.
Paul Géraldi, c'est qui?
Alors, Paul Géraldi, c'est un vieux con... Non, c'est un mec qui a écrit... en fait, quand j'ai écrit mon livre « Compter jusqu'à toi », j'étais très inspiré, mais inconsciemment, et maintenant consciemment, par ce livre. Ça s'appelle « Toi et moi » de Paul Géraldi.
Il a bien vécu.
Oui, il a bien vécu. Et en fait, c'est un roman d'amour qui raconte l'histoire d'un couple. Ce n'est pas très original, hein, mais il le fait... sous forme de poème. Alors, par exemple, je vous en lis un petit... Attends, je vais mettre juste mes lunettes d'ancien, de mec qui commence à plus rien voir. Enfin, je vois, mais ce serait plus à l'aise. Voilà. Toujours, toute la vie, oui, ces mots bêtes. Il faut me les redire et me les répéter. Se quitter, nous deux, dit, on pourrait se quitter. Ça te semble fou, monstrueux, oh, répète. J'ai besoin d'être sûr de notre éternité. Pourtant, comme mon ami m'affirme, c'est bien elle, la compagne définitive, que crains-tu? Tu n'auras qu'un amour et vous serez fidèle. Je suis un peu déçu. En fait, ça raconte les doutes et les inquiétudes, comme je l'ai fait un peu moi dans mon livre, qu'un amant peut avoir, qu'un amoureux peut avoir avec sa dulcinée. Et c'est sous forme de poème et je trouve que... Enfin, ça a longtemps été mon livre de chevet, comme j'aimerais que mon livre soit le livre de chevet des amoureux, en fait. C'est très prétentieux, mais c'est pas grave. Mais en le relisant, je me suis aperçu que la vision de la femme avait un peu vieilli. C'est quand même... Il est un peu macho, tu vois. Il voudrait que cette fille soit absolument jalouse... Qu'elle se torde de douleur quand il n'est pas là, etc. Donc c'est
pas pour ça qu'on continue d'écrire aussi, c'est pour mettre à jour.
Exactement.
Alors, vous
êtes foutu de ma gueule parce
toute
que
toute la littérature mondiale là réunie.
Vous êtes foutu de ma gueule parce que je savais pas ranger les trucs, mais j'ai quand même mis les Russes ensemble.
Ah, c'est seulement les Russes.
Ouais.
Donc, tout le reste c'est un peu d'accord. Et justement, parlons des Russes, il y a Tolstoï.
Ah bah ouais.
Et vous m'avez sorti tout à l'heure, je vous ai demandé quel est le livre à côté duquel il ne faut pas trop qu'on passe.
Voilà, La Sonate à Kreutzer, c'est un livre de nouvelles. Mais j'aurais pu aussi prendre La mort de Ivan Illich, qui je crois a été un événement littéraire à l'époque. Tout le monde en a parlé. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui ne sait pas affronter la mort. Un homme comme il faut, qui a épousé une femme comme il faut, qui est dans un appartement comme il faut. Et quand la mort arrive, accidentellement, parce qu'il est en train d'installer des rideaux sur une fenêtre, il se casse la gueule, il se fait mal au genou, et petit à petit, ça se nécrose. Et et il est face à la mort, il va mourir, et il ne sait pas comment faire. Dans ce recueil, en tout cas, enfin dans cette nouvelle, il est dit qu'on peut se préparer aussi un peu à la mort, et qu'on peut l'affronter, et en tout cas, imaginer qu'elle va arriver, parce qu'on vit comme si on était immortel.
Et ça, c'est une pensée qui vous hante aussi?
Ah bah ouais, j'y pense tout le temps, bien sûr. Ouais, à la mort. Ouais, je suis entouré de fantômes, moi. Donc,
Et les livres, ça aide ou c'est vraiment d'aucune utilité dans cette matière?
Évidemment, ça aide. Il y a tout dans les livres, vous le savez.
Non, mais pour
faites une émission
face à la mort,
là-dessus.
Je veux dire.
Ah, face à la mort. Oui, ça peut aider parce que j'ai la sensation que lire, c'est gagner du temps sur la mort et écrire, c'est gagner du temps aussi sur la mort. C'est une forme d'immortalité, la création.
Tous les livres que vous aimez sont là?
Non, pas tous. Il y en a qui sont près de mon lit. Je pourrais vous en citer plein. Bon, alors là, j'ai retrouvé L'éducation sentimentale de Flaubert. C'est fantastique. C'est marrant. En fait, il a mis en exergue un type qui n'a aucune valeur, quoi. En fait, c'est un...
Frédéric?
Ouais, Frédéric. Bravo. En fait, il n'a aucune valeur. Il n'a pas de morale. Il n'a aucune qualité, je trouve. Et je trouve ça génial de... En fait, le mec est complètement passé à côté de sa vie.
Ah, c'est ce que vous retenez de l'éducation sentimentale, pas l'histoire d'amour.
Je vois le loser, en fait. Non, moi, je vois le loser. Je vois ce mec qui est passé à côté de sa vie, en fait.
C'est un peu...
Je trouve ça hyper moderne.
La ligne rouge des rôles que vous écrivez, que vous interprétez, quoi.
Ah, complètement. Même quand j'étais avec Dieudo ou avec Franck dans Les Petites Annonces, ce n'était que des losers, des types seuls, quoi.
Alors, il y en a un qui n'est pas franchement connu pour être le loser lambda, c'est Albert Camus.
Ah oui, alors...
Qui est juste à côté.
Je l'ai relu il n'y a pas longtemps. L'étranger. Alors là, j'adore, comme Sagan et comme Colette, je ne sais pas si on peut les rapprocher tous les trois, mais ils ont une écriture très limpide. Annie Ernaux aussi. C'est des écritures qui sont très accessibles, mais qui, au fond, ont beaucoup de profondeur. C'est un mélange de légèreté et de profondeur. C'est ce que j'ai retrouvé chez Camus.
J'ai dit, il y a toute la littérature mondiale là d'un seul coup, parce qu'en poche, c'est pratique, on peut tout mettre.
Ouais.
Comment vous choisissez un livre quand vous en avez plus à lire et que vous vous dites,
là,
tiens, qu'est-ce que je peux lire?
Là, vous m'avez donné envie de le relire.
L'attrape-cœur.
Vous m'avez parlé d'amour et je vais le relire. En ce moment, je fais pas mal de dédicaces dans des librairies et je demande aux libraires. Et pour l'instant, ce que je leur demande, c'est des romans d'amour.
Ah, donc vous ne relisez pas les livres qui sont là?
Bah si, regardez celui-là, je vais le relire. Tolstoï, Guerre et Paix, je l'ai lu deux fois.
Ah bon, pourquoi?
Bah, j'ai trouvé fantastique. Et Albert Cohen, le Belle du Seigneur, je l'ai lu deux fois aussi.
Ah, vous aimez le temps long, vous aimez les grands livres qui durent longtemps.
Quand on a la chance de tomber sur un bouquin génial, excitant intellectuellement, et qu'en plus il est gros, c'est fantastique, on va vivre avec pendant deux semaines, c'est génial.
Est-ce que vous prêtez vos livres, c'est-à-dire est-ce que vous les donnez finalement?
Ouais, bah oui, vous savez bien, quand on prête un bouquin.
Vous arrive d'être en bas et dire attends, faut que tu lis ce livre, vous montez, vous redescendez et vous avez perdu le livre?
J'ai beaucoup conseillé de Stefan Zweig, Brûlant secret. Ça, je l'ai donné 3-4 fois à des copains ou des copines.
Donc vous le rachetez à chaque fois?
Je le rachète à chaque fois. J'ai beaucoup conseillé Carou. J'ai beaucoup conseillé L'éducation sentimentale, Le livre de ma mère d'Albert Cohen.
Et alors, je suis un peu surpris parce que je m'attendais à voir beaucoup de recueils de poésie.
Alors, ils sont en bas.
Ah.
Bon, on peut y aller si vous voulez, mais.
Oh, bah, on peut regarder, ouais.
Je vais regarder si ma chambre n'est pas trop un bordel et puis je vais vous montrer ça.
Bon, on peut rentrer.
Là, il y a tous les recueils de poésie.
Ah, oui, d'accord. Juste à côté de votre lit, il y a une petite étagère avec à peu près 300 recueils de poésie.
Oui, il y en a plein. Là, il y a tous ceux que j'aime. En fait, il y a Verlaine, Fernando Pessoa, que j'aime beaucoup.
Rimbaud. Henri Michaud.
Ouais.
Celui que vous saisissez le plus avant de dormir?
Alors, c'est surtout Verlaine que j'adore. Donc je suis fou, et évidemment Baudelaire, Mais il m'arrive de feuilleter... J'ai essayé Shakespeare, j'ai pas bien compris. J'ai pas aimé, en fait. Ah oui, c'est un bouquin que je conseille aussi, c'est de... Lettre à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke. Ça, c'est très bien pour des gens qui lisent pas trop. Il y a aussi tout... Il y a beaucoup de livres de Sagan, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup lu quand j'écrivais. Ouais. Pour sa simplicité, pour son intelligence, pour...
Est-ce qu'il y a des poèmes que vous connaissez par cœur ?
J'étais seul l'autre soir au Théâtre Français, ou presque seul. L'auteur n'avait pas grand succès, ce n'était que Molière. Et nous savons de reste que ce grand maladroit qui fit un jour Alceste ignora le bel art de chatouiller l'esprit et de servir à point un dénouement bien cuit. Alors c'est de qui d'après vous ?
Aucune idée.
Alfred de Musset.
Et alors il n'y a pas de ça montage, vous êtes parti direct quoi.
Oui.
Vous, et en flânant, vous vous récitez des poèmes comme ça ?
Non, non, non. Je ne suis pas fou.
Il
hein.
y a le feu, Élie. Quel livre on prend ? Un seul.
Putain. Oh là, c'est impossible ce que vous me demandez.
Bah, tout va cramer, hein. Je suis désolé, mais il faut en sauver un là.
Je pense tout de suite à bah, ce Steve
Tessich.
Tessich, Price.
Price.
Non, pas Carreau. J'ai adoré ce bouquin. Je peux sauver aussi, on retourne là-haut,
ouais.
Je peux sauver le roman du mariage.
De Jeffrey Eugenides.
Exactement. Ah, vous êtes calé, vous, hein ?
Ah bah, c'est mon métier, je passe ma journée à ça, heureusement.
Ah ouais. Voilà, le roman du mariage, c'est magnifique.
Jeffrey Eugenides, auteur américain actuel, hein, contemporain, pourquoi vous avez aimé ce livre-là en particulier ?
Encore vivant ? Parce que, encore une fois, ça parle d'amour, donc ça me parle, quoi. Et puis en bas, on a plein de bouquins de plantes.
Oui, alors j'allais y venir. Et d'apiculture.
Voilà, donc, si vous tournez là, vous voyez qu'il y a des ruches.
Ah c'est oui.
Pas un petit jardinier. Et devant, vous voyez qu'il y a des frelons asiatiques.
Oula, comment ça ?
Non, mais ça, vous n'avez pas...
Mais comment on les voit ?
Vous n'avez pas l'œil. Bah, c'est là où vous voyez une raquette de badminton, là.
Ouais.
Par terre, vous voyez, il y a des grosses espèces de grosses mouches qui passent devant le... En fait, avant que vous arriviez, j'en ai tué au moins 20.
Mais c'est dangereux, ça.
Oui, c'est dangereux, ouais.
Et vous avez repéré le nid ?
Non. Ah non, si je le repère, je suis mort.
Vous consultez tous ces livres-là pour ensuite réaliser dans votre jardin les compositions les...
Non, enfin oui, ça me donne des idées. Vous y connaissez rien en jardin,
rien
c'est
du
ça
tout, rien
d'accord.
Du tout,
vous dites faites des boutures, donc okay, j'ai compris que vous étiez nul. Hein. Bon, écoutez, ça c'est plein de bouquins de plantes d'un,
mais j'adore, ouais.
D'un éditeur qui s'appelle Ulmer. En fait, j'ai publié un roman chez eux, un roman, n'importe quoi, un bouquin qui s'appelle Pelouse interdite, pardon. Et donc c'est un super éditeur, les éditions Ulmer. Et alors là, vous avez pour les amoureux des plantes, vous voyez, les plantes belles et comestibles, plantes aquatiques, les plantes d'ombre, les plantes grimpantes, les plantes pour l'ombre encore, les vivaces.
Mais
c'est génial.
Vous lisez ces livres,
ah oui, oui, je
pour
les lis.
Une application pratique ou pour la beauté de ce que ça raconte,
non, pour
des images
pour les images, pour... Je me suis vachement inspiré de tous ces bouquins. Enfin, il y a des idées de jardin... Vous voyez, par exemple, si on va... Bon, c'est de la radio, hein, mais je vous amène là. Là, vous voyez, si vous ouvrez la fenêtre, vous voyez le bassin, là,
mm-hmm.
Il est en rondeur, comme ça. Il est tout rond.
Mm.
Vous voyez, il y a des poutres de la SNCF, des traverses de la SNCF qui sont tout autour. Bon, là, on ne voit pas trop parce qu'il y a beaucoup de végétation.
Ah, ouais.
Là, c'est une idée qui m'a été inspirée par un bouquin que j'ai lu.
Génial.
Voilà.
Et alors, il y a des aquariums aussi avec des plantes dedans.
Ouais.
Et il y a un Henry James qui sert à caler l'aquarium. Bravo.
Ouais, c'est triste. Hein. Oui, mais c'est en anglais. Donc
les livres, ça sert à tout, quoi.
Ouais, je suis nul en anglais. Donc,
Merci beaucoup, Élie Moon.
Merci.
Pour cette balade dans votre jardin de livres. Merci beaucoup.
Merci. Ça aurait pu durer plus longtemps. Adieu.
Et je rappelle, Compter jusqu'à toi, c'est le roman d'Élie Moon chez Robert Laffont. Dans un instant, lu et approuvé, l'équipe de chroniqueurs de l'émission vous fait des propositions de lecture. A tout de suite.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Dernier chapitre, épilogue de La Voix est libre avec Sébastien Bordenave pour la bande dessinée. Clémence Pouletti, journaliste littéraire, et notre libraire de la semaine, l'immense Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris. Bonjour à tous les trois.
Bonjour,
bonjour
Nicolas.
Bonjour.
On commence avec vous, Stanislas, qui est au téléphone. Un roman, un beau roman, comme on les aime, un roman britannique, je crois.
Oui, et c'est une formidable nouvelle, parce qu'on est à une époque où d'habitude, il n'y a plus grand-chose qui sort. Et là, pour, je crois, une question de sortie mondiale, on a la joie d'avoir un nouveau roman de Jonathan Coe, qui s'appelle Le Royaume des Unis aux éditions Gallimard, et qui est tout simplement ce qu'on adore chez Jonathan Coe. Mmh. C'est-à-dire une traversée de l'histoire britannique, alors l'histoire récente, puisque le livre commence en 1945. On va partir à Bourneville, Bourneville qui est le nom original du livre d'ailleurs, petit bled du côté de Birmingham, et on va suivre une famille à l'aune des grands événements de l'histoire britannique à partir de 1945. Mmh. Chaque chapitre correspondant à un grand événement. Le premier, c'est l'armistice. Et on va suivre cette famille donc pendant des décennies. C'est brillant, c'est drôle. Il y a une, enfin, il y a vraiment des scènes, notamment pour ceux qui le lisent, quand vous arriverez à la comment à l'histoire de la guerre du chocolat dans la CEE, mais c'est un des trucs les plus drôles que j'ai lu cette année.
C'est drôle à la Jonathan Coe, quoi.
Ah oui, pas de blague, juste la confrontation de situation, la confrontation d'absurdité qui rend le truc. Et alors tout ça, au prisme d'une histoire de famille où les personnages vont s'incarner, comme l'histoire est articulée au travers de chapitres qui correspondent à des événements, il y a un système d'ellipse qui est assez brillant, qui va nous faire zapper des fois 5 ans, 10 ans entre les situations. Mmh. Et les personnages sont hyper attachants. Ça se lit, mais d'une traite. Voilà, c'est une formidable bonne nouvelle. On a quand même, on a eu une très bonne rentrée, hein. D'ailleurs, on l'a assez défendu comme ça. Mais on n'a pas eu une très bonne rentrée en ce qui concerne la légèreté, l'humour, et en même temps avec une certaine présence. Et là, celui-là coche toutes les cases, comme souvent les romans de Jonathan Coe.
Bah, Jonathan Coe, il suffit de se servir dans n'importe quel de ses bouquins, c'est toujours magnifique. Mais là, c'est un peu une passerelle avec Au cœur de l'Angleterre, hein, si j'ai bien compris. Son avant-dernier.
Son avant-dernier. On pourrait penser ça, et en fait, c'est quand même assez différent. C'est-à-dire que il y a une dimension plus historique. En fait, je pensais ça quand j'ai attaqué le livre. Je me suis dit, il nous fait le cœur de l'Angleterre, mais 30 ans, 50 ans auparavant. Il y a une vraie différence de tonalité. Le livre est peut-être moins politique. En même temps, bon, on va retrouver quelques personnages, quelques peut-être même affreux personnages qui font l'actualité aujourd'hui. Mais le livre est plus basé vraiment sur cette Angleterre classique, traditionnelle, confrontée à la perturbation. On est moins sur un public urbain comme pouvait être sur le cœur de l'Angleterre, en fait.
Parfait. Jonathan Coe, vous nous rappelez le titre, Stan ?
Alors, Le Royaume des Unis aux éditions Gallimard.
C'est parfait, merci beaucoup Stan. Restez avec nous pour écouter Clémence Pouletti qui a encore une bonne idée de roman pour nous.
Oui, le roman Tenir sa langue, le premier roman de Polina Panasenko.
Alors, Polina... Oula, tous les post-it dedans.
Oui.
Et du stabilo.
Oui, post-it ou pas post-it, telle est la question. Chez moi, c'est oui. Alors, Polina, en vérité, est une petite fille russe qui vit avec ses grands-parents, ses parents et sa petite sœur. Or, en octobre 1993, l'URSS devient la Russie. Et puis, surtout, elle habite en France. Elle débarque en France à Saint-Étienne. Donc, pour elle, la France, c'est Saint-Étienne. oui, et elle ne parle pas un mot de français. Surtout, pour mieux s'intégrer, au lieu de garder son prénom Polina, on va l'appeler Pauline. À l'intérieur de la maison, c'est Polina et on parle russe. À l'extérieur, c'est Pauline et on parle français. La petite fille, elle va avoir du mal à s'intégrer. Je dis ça, ça a l'air tout triste comme ça, mais en vérité, c'est tout plein d'humour. Par exemple, elle raconte que quand elle était à l'école maternelle, elle avait beaucoup de mal à s'intégrer. Et notamment, elle ne comprenait pas parce qu'en russe, quand on dit « ça va » à quelqu'un, on lui dit « hibou ». Et tout le monde lui dit « ça va, ça va ». Et elle dit « pourquoi tout le monde me dit hibou, hibou ?» Il y a plein de petits trucs comme ça qui sont assez drôles qu'elle raconte.
Mais c'est son histoire vraie.
Même elle le dit pas, c'est un roman.
Tout est vrai parce que je l'ai inventé.
Exactement, voilà, on va partir là-dessus. Or, on la retrouve surtout, il y a beaucoup d'allers-retours entre son enfance à la fois à Saint-Étienne et en Russie auprès de ses grands-parents qui, eux, n'ont pas déménagé. Et puis... des retours ici, chez nous, à Montreuil, et au tribunal de Bobigny où elle veut faire changer son prénom. Elle veut retrouver son véritable prénom, Paulina. C'est un roman que j'ai trouvé génial dans l'écriture parce que ce n'est jamais dans l'auto-apitoiement. Pourtant, il lui arrive des choses assez tristes. Il lui arrive quelques malheurs. C'est jamais là-dedans. C'est toujours fin, subtil et souvent très drôle, non dénué d'humour, ce qui m'a plu. Elle est étonnante, cette Paulina. Son avocate aussi, les gens qui l'entourent également. Et c'est un livre qui révèle chez soi plusieurs questions. La question de l'identité, la question de son propre patriotisme. Parce qu'elle, à un moment, va se revendiquer en tant que russe, puis en tant que française. C'est compliqué. Et puis, il y a l'histoire de tenir sa langue, le silence. À un moment, elle va se fondre dans le mutisme pour ne plus avoir à parler ni russe ni français. Quelle langue on parle ? C'est un roman qui soulève toutes ces questions et que j'ai trouvé totalement brillant.
Et tenir sa langue, c'est aussi le titre aux éditions de l'Olivier, Stanislas Rigaud, aux éditions de l'Olivier. On y va les yeux fermés, de toute façon.
On y va les yeux fermés, français et étranger. C'est un des grands éditeurs d'aujourd'hui qui est revenu en pleine forme.
Les yeux ouverts, c'est mieux pour lire.
Sébastien Bordenave, la bande dessinée.
Oui, aujourd'hui, une BD d'une classe folle. Ça s'appelle Shibumi. C'est pas un manga, c'est une BD adaptée d'un roman culte. Le roman aussi s'appelait Shibumi. Il a été publié en 79, un roman d'espionnage philosophique. À sa sortie, il est lu par plus de 3 millions de lecteurs à travers le monde. Et c'est d'autant plus incroyable qu'on ne savait pas qui, à l'époque, en était l'auteur. Il s'est fait appeler Trévagnan, l'auteur, mais on ne savait pas qui c'était. Il donnait des interviews par téléphone, mais sans donner son identité. On le saura qu'en 98, c'est René Whittaker, né dans l'état de New York. Il a longtemps vécu reclus au Pays Basque dans les années 90. On pense qu'il est mort et bim, il sort des nouvelles. À la question pourquoi tous ces mystères, il répond qu'il préfère la dignité à la richesse. Quelle drôle d'idée. Il est mort en 2005, cet auteur. Et la BD, donc, adaptée d'un de ses romans cultes, est une réussite absolue. Shibumi. Alors, je ne sais pas comment était le roman, mais là, en bande dessinée, il y a tout. Un héros mystérieux et charismatique qui pratique le Shibumi. Rassurez-vous, rien à voir avec un hobby pervers japonais à base de cordes. Le Shibumi, c'est la recherche d'un certain esthétisme basé sur la beauté simple, subtile et discrète. En France, on dit Nicolas Caro. Un héros sexy, donc, une firme américaine secrète qui veut régenter le monde. Des tueurs à gages, en veux-tu, en voilà. Des filles sexy, mais qui ne le savent pas. Des intrigues géopolitiques passionnantes. De la spéléologie, de la méditation, des bastons, de la vengeance qui se mange froid, du suspense et des retournements de situation. N'en jetez plus. On passe un super moment. On en a pour son argent. Des dessins vifs, comme il faut, de Jean-Baptiste Ostache et l'adaptation de Pat Bernat, ça s'appelle Shibumi, c'est chez les Arènes. Sachez que Shibumi en philosophie, ça veut dire exister sans l'angoisse de devenir. C'est beau ça. Hein,
et voilà. En couverture, il y a un monsieur avec une cravate qui est en train d'essuyer le sang sur son katana. Exactement. Avec un drapeau américain, très très beau, mystérieux. Hein. Shibumi. Merci Sébastien. Est-ce que vous avez une petite citation
Une citation BD sous la forme d'un dialogue entre Lucky Luke et son cheval, Jolly Jumper. Ils sont à la pêche tous les deux, le cheval pêche, normal. Lucky Luke lui dit « Mais avec quoi tu enfiles l'asticot sur l'hameçon, toi ?» Jolly Jumper répond « Bah comme tout le monde, avec dégoût.
» C'est un vieux Lucky Luke, ça.
C'est un vieux Lucky Luke.
Ouais, ça me dit quelque chose. Clémence Pouletti, donc, c'est « Tenir sa langue »
de Paulina Panasenko.
Aux éditions de l'Olivier. Et Stanislas Rigaud.
Alors, juste vous dire que effectivement Shibumi, la BD est canon, le roman est canon, mais qu'il existe aussi une suite, une vraie fausse suite écrite non ni plus ni moins par l'immense Don Winslow, qui s'appelle Satori, et qui nous donne un espèce de Tintin ultra violent, absolument réjouissant.
Je sais que vous adorez Don Winslow, quel talent, merci Stan. Et donc c'était Jonathan Coe
avec Le Royaume des Unis aux éditions Gallimard.
C'est parfait, merci beaucoup à tous les trois. Stan, Librairie Lamartine, Paris, 16e arrondissement. Clémence Pouletti, on vous retrouve sur YouTube. Il suffit de taper Clémence Pouletti sur YouTube et on va tomber sur vous et sur vos vidéos qui parlent de littérature. Et je rappelle, notre invité, c'était Mackenzie Orcel pour Une Somme Humaine chez Rivage. Merci beaucoup à Agnès Vaudin pour la préparation de cette émission. Grégory Delpech pour la programmation musicale et à la réalisation. Boris Paczynski, bien entendu, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres livres. Salut.
Europe 1, 14h-15h, La Voix est libre.
Nicolas Carreau.